Bonsoir à tous. Je voulais savoir si vous vous souveniez de ce que vous faisiez le 12 mars 2020 au matin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je m'en souviens. Je faisais les 100 pas, très stressé, et j'attendais qu'Efix se réveille.
Alors moi, le 12 mars 2020, je me réveille tranquillement. Bah, je regarde Thomas quand même. Il a l'air agité. Enfin, il a l'air plus agité que d'habitude. Et là, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Il me regarde et il me dit...
Trump ferme les frontières. Qu'est-ce qu'on fait ?
J'ai pas hésité longtemps. En fait, j'ai pris ma décision parce que... Dans exactement 2 mois et 24 jours, notre premier enfant doit naître et il est hors de question que Marie naisse sans avoir ses papas avec elle. Voilà. Donc je me dis, ça va être facile, il est 9h, je suis en peignoir, les cheveux en bataille. Je vais juste prendre un vol et puis en fait ça va aller. En vérité, les sites sont pris d'assaut. Tout est en erreur 404, vous savez, cette fameuse page qui apparaît. Et il m'a fallu une heure interminable pour trouver un billet, non pas pour Houston, mais pour Boston. Alors je file dans un taxi. Là, c'est l'effervescence et bon, on aurait pu dire, j'ai juste pris un billet d'avion, ça va. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression à ce moment-là d'être un pilgrim phaser qui débarque à bord du Mayflower en terre promise. Voilà. Donc, ça m'amène à une question, les papas, les pères qui nous écoutent. À quel moment est-ce que vous êtes senti devenir père? Moi, je sais exactement le point de bascule à quel moment il a eu et c'est précisément au moment que je me suis dit que c'était impensable que mon enfant naisse sans moi.
Pendant ce temps-là, à Paris, hein, la vie est plutôt calme. Comme vous, je tape sur une casserole à 20h pour dire merci aux soignants. Et je les remercie encore 5 ans après. Et puis, la journée, je travaillote, parce qu'il n'y a plus vraiment de boulot. Et puis, j'appelle l'ambassade des États-Unis une fois, deux fois, trois fois. J'appelle l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens. J'appelle notre avocate, Maître Duré. Et on les appelle tous les jours. Et les mois, les semaines se passent. Et puis, pas trop d'espoir. Et puis finalement... 10 jours avant la naissance de Marie, je peux prendre un avion. J'arrive dans un aéroport complètement vide. Et Fix, lui, avait des problèmes de place dans l'avion. Moi, l'avion était totalement vide. On était 3 dans un Airbus, pour de vrai. Si vous vous demandez s'il y a des esprits tordus qui se demandent est-ce qu'Air France vous a quand même surclassé, je vous rassure, non. Voilà. Et nous voilà partis pour les États-Unis. 9 heures de vol et arriver là-bas, alors c'est totalement surréaliste. On ferme les frontières, mais là-bas, c'est bamboche. Pas de gestes barrières, pas de masque. On a le droit au rassemblement. Voilà. Et là, on comprend à quel point les États-Unis, c'est avant tout le pays des libertés individuelles.
Et là, c'est le moment de l'accouchement. 1er juin 2020, on arrive un peu fébrile en se demandant quel accueil nous serait fait, nous deux papas avec une mère porteuse, dans un hôpital texan au nom évocateur de Christus Sainte-Élisabeth. Et là, vous vous dites de votre côté, mais une GPA, deux papas, au Texas, au pays des saloons, des rodéos, des puits de pétrole, des cow-boys? Et en fait, oui, mais à une seule condition, celle d'être marié. Et ça, c'est les paradoxes des États-Unis comme on les aime. Et au final, on finit par y arriver et tout va bien. On est accueillis hyper chaleureusement par tout le personnel médical. En fait, c'est un non-sujet, on est sur une autre planète.
Donc vous l'avez compris, on a fait une GPA et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah c'est Marie qui va vous l'expliquer.
Marie, tu veux bien nous expliquer comment t'es?
Oui.
Alors comment t'es?
Il y a Kelsey qui m'a mis la petite graine. Papa Thomas, il m'a mis la petite graine. Papa Yves, il a mis tout son amour. Après, ils ont mis dans le ventre Isabella. Et moi, je suis sortie.
Alors, si Marie raconte ça avec ses mots d'enfant de manière tout à fait enfantine, nous, ça n'a pas été si simple. Pourquoi la GPA? Bah, parce qu'on, de toute façon, il n'y avait pas trop d'autres options. Et pour autant, ça a quand même été un long process de maturation pour nous, parce que, notamment pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'il était possible que certaines femmes soient capables de porter un enfant et de s'en détacher, entre guillemets, j'ai pas trouvé d'autres mots, après.
Alors moi, je suis tellement un fils à maman avec un bon gros complexe d'Oedipe. C'était dur de me projeter avec un enfant qui aurait pas de mère. Mais ça, c'était avant de rencontrer Isabella, qui est notre mère porteuse. Alors, c'est elle qui nous a choisis, déjà, il faut le dire. Elle a souhaité être mère porteuse parce qu'elle-même, elle avait eu un don d'ovocyte pour avoir ses propres enfants. Donc, elle a vraiment voulu rendre l'appareil à un couple. Et quand on est arrivé à l'hôpital, bah, elle était super forte, hyper digne. En fait, c'est elle qui nous a rassurés sur le fait que l'accouchement allait bien se passer. Ouais. Et bon, Marie a quand même mis 3 jours à venir. Hein, donc, 3 jours avec 3 heures de poussée finale. Finale, pas si finale que ça, du coup. Voilà.
Alors oui, Isabella se sentait mieux que moi. Moi, pendant les 3 jours qui ont précédé l'accouchement, j'étais vraiment pas bien. Non pas parce que je me sentais pas capable d'avoir un enfant. Je pense que j'ai voulu ça depuis que j'ai mes 15 ans. Non, parce que moi, j'étais obsédé par une seule chose. C'est qu'est-ce que ressent Isabella? À quoi elle pense? Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle regrette pas? Et puis, quand le moment est venu de l'accouchement, de la poussée, moi, mon cerveau, il arrivait pas à rationaliser la chose. Oui, elle avait mal et c'était à cause d'un accouchement. Mais pour moi, mon cerveau, il me disait, elle a mal et c'est à cause de toi, Thomas.
alors que moi j'étais fasciné, en fait, je la regardais, et elle semblait tellement exactement à la place qu'elle devait occuper pour nous aider ce jour-là, que je vivais l'instant présent avec elle, et quand le médecin m'a demandé si je pouvais porter son mollet droit pour la pousser, bah j'ai pas hésité, voilà, j'ai dit banco. Donc je me suis retrouvé avec son mollet, et franchement mesdames, je tiens à vous faire une confidence, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant que l'accouchement, et rien que pour ça, vous êtes vraiment des warriors, je le pense vraiment.
À sa naissance, Marie, elle a poussé un petit cri de chat, trop mignon. Elle avait ses yeux grands ouverts, nos yeux sont croisés. Là, moi, c'est à ce moment précis que je me suis senti devenir papa et de toute la responsabilité qui allait avec. Alors Marie, ça a été une explosion de joie pour nous, pour toute sa famille, mamie, tonton, parrain, marraine, et ainsi de suite. Mais la première année de paternité, moi, je la vivais pas bien. Je la vivais pas bien parce que je pensais toujours à Isabella. J'étais obsédé par qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle regrette. On parlait tout le temps Isabella, WhatsApp chaque semaine, visio, SMS, mais j'arrivais pas à me détacher de ça. Et j'ai réussi à me détacher de ça le jour du premier anniversaire de Marie, quand Isabella nous envoyait un message pour dire « Il y a un an, je faisais la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, donner la vie pour autrui. » Et ce jour-là, j'ai une chape de plomb qui est partie, et voilà.
Alors vous vous demandez qu'est-ce que ça change d'être deux papas finalement ? Honnêtement, ça change pas grand-chose. Alors si quand même, quand vous arrivez au magasin de chaussures et que la dame très commerçante vous dit oh, « Votre fille, c'est votre portrait crashé, monsieur. » Là, on expérimente dans sa chair que finalement, la biologie change pas grand-chose et que quand votre enfant vous regarde avec les yeux de l'amour en vous appelant papa, bah, ça s'impose à vous.
Être deux papas, c'est entendre 10 fois la suite à les crococos, les crococos, les crocodiles et au bout de la 10e fois, entendre encore papa.
Être deux papas, c'est organiser un grand baptême républicain. Car oui, la République protège tous ses enfants.
Être deux papas, c'est réaliser qu'en dépit du harcèlement scolaire que vous avez pu recevoir à l'école quand vous étiez petit, que vous avez subi à l'école quand vous étiez petit, en dépit des 1,4 million de personnes qui ont défilé contre le mariage pour tous, en dépit des atrocités qu'il peut avoir dans le monde entier contre les homosexuels, il y a toujours de l'espoir et il y a toujours du bonheur.
Alors on sait qu'après ce témoignage, on va recevoir beaucoup de messages d'amour et qu'on recevra à peu près le double de messages de haine.
Mais vous me direz recevoir un message de haine de la part de la reine des neiges 72. Bon, on s'en remet.
Franchement, nous on s'en fiche pour nous, mais c'est pour nos enfants qu'on a peur.
Oui, parce qu'il y a une énorme omerta. On vous dit pas à quel point vous allez avoir peur toute votre vie une fois que vous avez des enfants. Et nous on a peur pour nos enfants parce que, vous l'aurez compris, Sophia est venue compléter la famille et maintenant c'est 2 fois plus de bonheur dans la famille.
Et enfin, il y a un deuxième truc super important qu'on ne vous dit pas. C'est que les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis. Alors pitié, n'en parlons plus.